qui m'a toujours réellement fasciné, ce n'est pas la méchanceté de ceux qui commettent le crime, mais la stupidité de ceux qui les suivent. Et donc, mon problème, ce n'est pas qu'il y a eu Mussolini ou qu'il y a Berlusconi, qui sont des choses différentes, mais qu'il y a eu les Italiens qui les ont pris au sérieux.
Reconnaître le fascisme. Umberto Eco. Partie 1 sur 2. En 1942, à l'âge de 10 ans, j'ai remporté le premier prix au Ludi Juvens, un concours à libre participation forcée pour jeunes fascistes italiens. Lisez pour tous les jeunes Italiens. J'avais brodé avec une magistrale rhétorique sur le sujet « Faut-il mourir pour la gloire de Mussolini ?» et le destin immortel de l'Italie. Ma réponse était affirmative. J'étais un petit garçon très éveillé. Puis, en 1943, je découvris le sens du mot « liberté ». Je vous raconterai cette histoire à la fin de mon propos. À ce moment-là, « liberté » ne signifiait pas encore « libération ». J'ai passé deux de mes premières années entre SS, fascistes et partisans qui se tiraient dessus, et j'ai appris à éviter les balles, un exercice qui ne fut pas inutile. En avril 1945, les partisans prirent Milan. Deux jours plus tard, ils arrivèrent dans la petite ville où je vivais. Un grand moment de joie. La place principale était noire de monde. Tous chantaient, agitaient des drapeaux, scandaient en hurlant le nom de Mimmo. Chef des partisans de la zone, Mimmo, ex-maréchal des carabiniers, s'était rangé aux côtés de Badoglio et avait perdu une jambe lors d'un des premiers accrochages. Pâle, appuyé sur des béquilles, il apparut au balcon de la mairie. D'une main, il demanda à la foule de se calmer. Moi, j'attendais son discours, puisque mon enfance avait été marquée par les grands discours historiques de Mussolini, dont nous apprenions par cœur à l'école les passages les plus significatifs. Silence. D'une voix rauque, presque inaudible, Mimmo parla. Citoyens, mes amis, après tant de douloureux sacrifices, nous y voici. Gloire à ceux qui sont tombés pour la liberté. Ce fut tout, et il retourna à l'intérieur. La foule criait, les partisans levèrent leurs armes et tirèrent en l'air joyeusement. Nous, les enfants, nous nous précipitâmes pour récupérer les douilles, précieux objets de collection, mais je venais aussi d'apprendre que liberté de parole signifiait liberté. Quant à la rhétorique. Quelques jours après, je vis arriver les premiers soldats américains. Il s'agissait d'Afro-Américains. Mon premier Yankee était un noir, il s'appelait Joseph, et m'initia aux merveilles de Dick Tracy et de Lee Labner. Ses bandes dessinées étaient en couleur, et elles sentaient bon. La famille de deux de mes camarades de classe avait mis sa villa à la disposition de l'un des officiers, le major ou capitaine Moody. Je me sentais chez moi dans ce jardin où des femmes parlant un français approximatif faisaient cercle autour de lui. Le capitaine Moody avait fait des études supérieures et il connaissait un peu le français. Ainsi, ma première image de libérateur américain, après tant de visages pâles en chemise noire, fut celle d'un noir, cultivé, en uniforme vert jaune, qui disait « Oui, merci beaucoup, madame. Moi aussi, j'aime le champagne. » Malheureusement, du champagne, il n'y en avait pas. Mais le capitaine Moody m'offrit mon premier chewing-gum, et et je me mis à mâchouiller toute la sainte journée. La nuit, je le mettais dans un verre d'eau afin de le garder au frais pour le lendemain. En mai, nous sûmes que la guerre était finie. La paix me fit un drôle d'effet. La guerre permanente était, m'avait-on dit, la condition normale pour un jeune Italien. Les mois suivants, je découvris que la résistance n'était pas un phénomène local, mais européen. J'appris des mots nouveaux et excitants comme réseau, maquis, armée secrète, Rotkapelle, ghetto de Varsovie. Je vis les premières photographies de l'Holocauste et en compris la signification avant que d'en connaître le mot. Je me rendis compte de quoi nous avions été libérés. En Italie, il se trouve aujourd'hui des gens qui se demandent si la résistance a eu un impact militaire réel sur le cours de la guerre. Pour ma génération, la question est nulle et non avenue. Nous avons tout de suite compris la signification morale et psychologique de la résistance. Nous tirions orgueil, nous, Européens, de ne pas avoir attendu passivement la libération. Et il me semble que pour les jeunes Américains venus verser leur tribut de sang à notre liberté, il n'était pas négligeable de savoir que, derrière les lignes, des Européens payaient déjà leurs dettes. En Italie, il se trouve quelqu'un pour affirmer aujourd'hui que le mythe de la résistance était un mensonge communiste. Certes, les communistes ont exploité la résistance comme une propriété personnelle, puisqu'ils y ont joué un rôle prépondérant, mais moi, j'ai le souvenir de partisans portant des foulards de couleurs différentes. L'oreille collée à la radio, les fenêtres fermées et le blackout général faisant de l'espace exigu autour de l'appareil le seul halo lumineux, je passais mes nuits à écouter les messages de Radio Londres aux partisans. À la fois obscur et poétique. Le soleil se lève encore, les roses fleuriront. La majeure partie d'entre eux s'adressait à ceux de Francky. On me susurra que Francky était le chef d'un des groupes clandestins les plus puissants de l'Italie du Nord, un homme au courage légendaire. Francky devint mon héros. Francky, Edgardo Sogno, de son vrai nom, était un monarchiste, tellement anticommuniste qu'après la guerre, il rejoignit un groupe d'extrême droite et fut même accusé d'avoir collaboré à une tentative de coup d'État réactionnaire. Mais qu'importe ! Sogno restera toujours Sogno, le rêve de mon enfance. La libération fut l'entreprise commune de gens de couleurs différentes. En Italie, il se trouve quelqu'un pour dire aujourd'hui que la guerre de libération fut une tragique période de division et que nous avons maintenant besoin d'une réconciliation nationale. Le souvenir de ces terribles années devrait être refoulé. Seulement, voilà, le refoulement est source de névrose. Si réconciliation signifie compassion et respect pour ceux qui ont livré leur guerre de bonne foi, pardonner ne signifie pas oublier. Je pourrais même admettre qu'Eichmann croyait sincèrement en sa mission, mais je ne me vois pas en train d'affirmer « Ok, reviens et recommence ». Nous sommes là pour rappeler ce qui s'est passé et déclarer solennellement qu'il ne doivent pas recommencer. Mais qui ? Ils ? Si l'on réfère aux gouvernements totalitaires ayant dominé l'Europe avant la Seconde Guerre mondiale, on peut affirmer sans crainte qu'il serait difficile de les voir revenir sous la même forme dans des circonstances historiques différentes. Si le fascisme de Mussolini se fondait sur l'idée d'un chef charismatique, le corporatisme, l'utopie du destin fatal de Rome, sur une volonté impérialiste de conquérir de nouvelles terres, sur un nationalisme exacerbé, sur l'idéal de toute une nation embrigadée en chemise noire sur le refus de la démocratie parlementaire et l'antisémitisme, alors je n'ai aucun mal à admettre que Alleanza Nazionale issu du MSI, Mouvement Social Italien, est certainement un parti de droite, mais qu'il n'a pas grand-chose à voir avec l'ancien fascisme. Pour des raisons identiques, même si je suis préoccupée par les divers mouvements pro-nazis actifs ça et là en Europe, Russie comprise, je ne pense pas que le nazisme, sous sa forme originale, soit en passe de renaître en tant que mouvement capable d'impliquer une nation entière. Même si l'on peut renverser les régimes politiques, critiquer les idéologies et leur dénier toute légitimité, on trouve toujours, derrière un régime et son idéologie, une façon de penser et de sentir, une série d'habitudes culturelles, une nébuleuse d'instincts obscurs et de pulsions insondables. Un autre spectre hanterait-il donc l'Europe, sans parler des autres parties du monde ? Les paroles seules comptent, le reste n'est que bavardage, a dit un jour Ionesco. Les habitudes linguistiques sont souvent des symptômes essentiels de sentiments inexprimés. Permettez-moi donc de poser une question. Pourquoi a-t-on défini non seulement la résistance, mais aussi l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale comme une lutte contre le fascisme ? Si vous relisez « Pour qui sonne le glas » d'Hemingway, vous verrez que Robert Jordan identifie ses ennemis comme des fascistes, même lorsqu'il pense aux phalangistes espagnols. Si vous le voulez bien, je laisse la parole à F.D. Roosevelt. La victoire du peuple américain et de ses alliés sera une victoire contre le fascisme et l'impasse du despotisme qu'il représente. 23 septembre 1944. Sous le maccartisme, les Américains ayant participé à la guerre civile espagnole étaient appelés des antifascistes prématurés. Lisez que combattre Hitler dans les années 40 était un devoir moral pour tout bon Américain, tandis que combattre Franco trop tôt, dans les années 30, était suspect. Pourquoi les radicaux américains employaient-ils une expression comme « fascist pig » pour désigner un policier désapprouvant ce qu'il fumait ? Pourquoi ne disaient-ils pas « sale cagoulard, sale phalangiste, sale Ustanchi, sale Quisling, sale Ante Pavelich, sale nazi ?» Mein Kampf constitue le manifeste complet d'un programme politique. Le nazisme avait une théorie du racisme et de l'arianisme, une notion précise de l'entartete Kunst, l'art corrompu, une philosophie de la volonté de puissance et de l'Übermensch. Il était résolument antichrétien et néo-païen, tout comme le Diamat, la version officielle du marxisme soviétique, de Staline, était clairement matérialiste et athée. Si par totalitarisme on entend un régime qui subordonne tout acte individuel à l'État et à son idéologie, alors nazisme et stalinisme étaient des régimes totalitaires. Il ne fait aucun doute que le fascisme était une dictature, mais il n'était pas complètement totalitaire. Non point à cause d'une sorte de tiédeur, mais en raison de la faiblesse philosophique de son idéologie. Contrairement à ce que l'on pense en général, le fascisme italien n'avait pas une philosophie propre. L'article sur le fascisme, signé par Mussolini dans l'encyclopédie Treccani, fut écrit ou inspiré dans ses fondements par Giovanni Gentile. Mais il reflétait une notion hégélienne tardive de l'état éthique et absolu que Mussolini ne réalisa jamais totalement. Mussolini n'avait aucune philosophie, il n'avait qu'une rhétorique. Il commença comme athée militant pour finir par signer le concordat avec l'Église et accueillir à bras ouverts les évêques qui bénissaient les insignes fascistes. Une légende plausible raconte que, lors de ses débuts dans l'anticléricalisme, il aurait demandé un jour à Dieu de le foudroyer sur place pour lui prouver son existence. De toute évidence, Dieu était distrait. Plus tard, dans ses discours, Mussolini ne manquait jamais de citer le nom de Dieu et ne dédaignait pas de se faire appeler l'homme de la Providence. Certes, le fascisme italien fut la première dictature de droite ayant dominé un pays européen. Et le régime mussolinien offrit ensuite à tous les mouvements analogues une sorte d'archétype commun. Le fascisme italien fut le premier à créer une liturgie militaire, un folklore, voire une mode vestimentaire, laquelle eut plus de succès à l'étranger qu'Armani, Benetton ou Versace. C'est seulement dans les années 30 que des mouvements fascistes firent leurs premières apparitions en Angleterre, avec Mosley, et en Lettonie, Estonie, Lituanie, Pologne, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Grèce, Yougoslavie, Espagne, au Portugal, en Norvège, et même en Amérique du Sud, sans parler de l'Allemagne. C'est le fascisme italien qui convainquit les leaders libéraux européens que le nouveau régime mettait en œuvre des réformes sociales intéressantes, capables d'offrir une alternative modérément révolutionnaire à la menace communiste. Cela dit, la primauté historique ne suffit pas, selon moi, à expliquer que le mot fascisme soit devenu une synecdoque, la dénomination pars pro toto de mouvements totalitaires différents. Inutile de répondre que le fascisme contenait en soi tous les éléments des totalitarismes successifs, qu'il était une manière de quintessence. Au contraire, la quintessence, le fascisme n'en possédait aucune, et même pas une simple essence. Le fascisme était un totalitarisme fuzzi. Le fascisme n'avait rien d'une idéologie monolithique, c'était un collage de diverses idées politiques et philosophiques fourmillant de contradictions. Peut-on concevoir un mouvement totalitaire qui réunisse la monarchie et la révolution, l'armée royale et la milice personnelle de Mussolini, les privilèges accordés à l'Église et une éducation étatique exaltant la violence, le contrôle absolu de l'État et le libre marché? Le parti fasciste était né en proclamant son nouvel ordre révolutionnaire, mais il tirait son financement de propriétaires terriens ultra-conservateurs qui attendaient une contre-révolution. Le fascisme des débuts était républicain, et il a survécu pendant 20 ans en proclamant sa loyauté envers la famille royale, en permettant à un duce d'aller de l'avant, bras dessus, bras dessous, avec un roi auquel il offrit même le titre d'empereur. Lorsqu'en 1943, le roi congédia Mussolini, le parti réapparut, 2 mois plus tard, avec l'aide des Allemands, sous le drapeau d'une république sociale, recyclant son ancienne partition révolutionnaire, enrichie d'accents presque jacobins. Il y eut une seule architecture nazie et un seul art nazi. Si l'architecte du nazisme était Albert Speer, il ne pouvait y avoir de place pour Miss Van der Rohe. De la même façon, sous Staline, si Lamarck avait raison, Darwin ne pouvait exister. En revanche, s'il y eut des architectes fascistes, on vit s'élever aux côtés de leur pseudo-colisée des édifices inspirés du rationalisme moderne de Gropius. Il n'y eut pas un Cejdanov fasciste. L'Italie avait 2 grands prix artistiques, le prix Cremona, contrôlé par un fasciste inculte et fanatique, Farinacci, qui soutenait un art propagandiste. Je me souviens de tableaux intitulés En écoutant à la radio un discours du Duce ou Étamentaux créé par le fascisme. Et le prix Bergamo, sponsorisé par un fasciste cultivé et raisonnablement tolérant, Botteille, lequel protégeait l'art pour l'art et les expériences de l'art avant-gardiste que l'Allemagne avait banni parce que corrompu, crypto-communiste, contraire au kitsch nébelougien, le seul admis. D'Annunzio était le poète national, un dandy que l'Allemagne ou la Russie auraient envoyé devant un peloton d'exécution. Il fut élevé au rang de chantre du régime pour son nationalisme, son culte de l'héroïsme, matiné de fortes doses de décadentisme français. Prenons le futurisme. Il aurait dû être considéré comme un exemple d'entartete Kunst, au même titre que l'expressionnisme, le cubisme et le surréalisme. Mais les premiers futuristes italiens étaient nationalistes. Ils encouragèrent, pour des raisons esthétiques, la participation italienne à la Première Guerre mondiale. Ils célébrèrent la vitesse, la violence, le risque. Et d'une certaine manière, ces aspects parurent proches du culte fasciste de la jeunesse. Au moment où le fascisme s'identifiait à l'Empire romain et redécouvrait les traditions rurales, Marinetti, qui proclamait une automobile plus belle que la victoire de Samothrace et voulait résolument tuer le clair de lune, fut nommé membre de l'Académie d'Italie, laquelle traitait le clair de lune avec le plus grand respect. Maints futurs partisans et maints futurs intellectuels du Parti communiste firent leur éducation au sein du GUF, l'Association fasciste des universités, qui entendait être le berceau de la nouvelle culture fasciste. Or, ces clubs devinrent une sorte de creuset intellectuel, où les idées nouvelles circulaient sans aucun contrôle idéologique réel, non tant grâce à la tolérance des hommes du parti, mais plutôt parce que peu d'entre eux possédaient les moyens intellectuels de les contrôler. Durant ces 20 années, l'hermétisme se posa en réaction au style pompeux du régime. On laissa les poètes élaborer leurs protestations littéraires dans leur tour d'ivoire. La perception des hermétiques était diamétralement opposée au culte fasciste de l'optimisme et de l'héroïsme. Le régime tolérait cette dissension patente, même si socialement imperceptible, car il ne prêtait pas une attention suffisante à un jargon aussi mystérieux. Cela ne signifie pas que le fascisme italien était tolérant. Gramsci fut jeté en prison jusqu'à sa mort. Matteotti et les frères Rosselli furent assassinés, la liberté de la presse supprimée, les syndicats démantelés, les dissidents politiques relégués sur des îles lointaines. Le pouvoir législatif devint une pure fiction. L'exécutif, qui contrôlait le pouvoir judiciaire et les médias, promulguait directement les nouvelles lois, parmi lesquelles celle de la défense de la race, appui formel italien à l'Holocauste. Non, l'image incohérente que je viens de décrire ne devait rien à la tolérance. C'était un exemple de désarticulation politique et idéologique. Cela dit, il s'agissait d'une désarticulation ordonnée, d'une confusion structurée. Le fascisme était philosophiquement disloqué, mais d'un point de vue émotif, il était fermement enchâssé dans certains archétypes. Et j'en arrive au deuxième point de ma thèse. Il y eut un seul nazisme. Et l'on peut nommer nazisme le phalangisme hyper-catholique de Franco, puisque le nazisme est fondamentalement païen, polythéiste et antichrétien. Sinon, ce n'est pas du nazisme. Au contraire, on peut jouer au fascisme de mille façons, sans que jamais le nom du jeu change. La notion de fascisme connaît ce que, selon Wittgenstein, connaît la notion de jeu. Un jeu peut être ou ne pas être une compétition. Il peut impliquer une ou plusieurs personnes. Il peut requérir quelques habiletés particulières ou bien aucune. Il peut être l'enjeu de sommes d'argent ou pas. Les jeux sont une série d'activités diverses qui témoignent seulement d'un quelconque air de famille. 1. ABC. 2. BC. D, 3, C, D, E, 4, D, E, F. Supposons qu'il existe une série de groupes politiques. Le groupe 1 est caractérisé par les aspects ABC, le groupe 2 par BCD, et ainsi de suite. 2 est semblable à 1 en tant qu'ils ont deux aspects en commun, 3 est semblable à 2 et 4 est semblable à 3 pour la même raison. Notons que 3 est aussi semblable à 1. Ils ont en commun l'aspect C. Le cas le plus curieux, c'est 4. Évidemment semblable à 3 et à 2, mais sans aucune caractéristique commune avec 1. Toutefois, en raison de la série ininterrompue de similarités décroissantes entre 1 et 4, il subsiste par une sorte de transitivité illusoire un air de famille entre 4 et 1. Le terme fascisme s'adapte à tout parce que même si on élimine d'un régime fasciste un ou plusieurs aspects, il sera toujours possible de le reconnaître comme fasciste. Enlevez-lui l'impérialisme et vous aurez Franco et Salazar. Enlevez le colonialisme et vous aurez le fascisme balkanique. Ajoutez au fascisme italien un anticapitalisme radical, qui ne fascina jamais Mussolini, et vous aurez Ezra Pound. Ajoutez le culte de la mythologie celte et le mysticisme du Graal, totalement étranger au fascisme officiel, et vous aurez l'un des gourous fascistes les plus respectés, Julius Evola.
I fight for the land, I fight to oversee, for baby poops his pants right there in front of me. The poop in hand, for fatherland, il duce, go smash.